Bonsoir. La police, le FRDC, la garde républicaine ont fait un usage excessif de la force lors des manifestations de l'opposition des 19 au 20 septembre dernier qui ont dégénéré à Nouméa et à Kinshasa. C'est la conclusion du rapport des Nations Unies publié la semaine dernière. Selon ces documents, au moins 50 personnes ont été tuées, 140 personnes blessées et près de 300 arrêtées illégalement. Comment analyser ces rapports? Nous en parlons avec Maître Georges Kapiamba. Il est avocat, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en Fibre et coordonnateur de la coalition des 33 ONG pour le respect de la Constitution CRC en Fibre. Bonsoir Maître Georges Kapiamba.
Oui, bonsoir Monsieur journaliste, bonsoir à tous vos auditeurs.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Et bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs et auditeurs.
Et lui, c'est Benoît Iloama qui va nous rejoindre, il n'est pas encore là. Il est conseiller du vice-premier ministre chargé de l'intérieur et sécurité. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La police, les forces armées et la garde républicaine congolaise ont fait un usage excessif de la force, dont la force létale, lors des manifestations du 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa. C'est ce qu'indique le nouveau rapport des Nations Unies portant sur une enquête préliminaire de ces événements publié vendredi dernier à Genève. Le rapport fait état des 53 personnes tuées sur deux jours, 143 blessées et plus de 299 personnes arrêtées illégalement. L'enquête préliminaire menée par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits des l'homme, dit avoir documenté 422 victimes de violations des droits de l'homme, dont des violations du droit à la vie, à l'intégrité physique, à la liberté et sécurité de la personne et aux libertés des réunions pacifiques et d'expression. Billy Ivan Lutumba pour les détails.
À en croire le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO, ces chiffres ne reflètent pas l'ampleur réelle des violations, étant donné que les équipes des Nations Unies se sont vues refuser l'accès aux registres officiels de certaines morgues et hôpitaux publics ainsi qu'à plusieurs centres de détention, dont des établissements clés où la plupart des personnes arrêtées et de nombreux corps avaient été amenés. La même source renseigne que parmi les 53 personnes, notamment 7 femmes et 2 enfants, dont la mort a été documentée, au moins 48 ont été tués par des agents de l'État, des agents de la PNC et des militaires de la garde républicaine et des FRDC. Les auteurs présumés de la mort d'une femme et de 4 agents de la PNC ne sont toujours pas identifiés, précise le document. Le rapport indique qu'une large majorité des victimes, 38 d'entre elles, ont été tuées par balles. D'autres victimes ont été brûlées, poignardées, battues ou blessées par machette. Parmi les 143 blessés documentés, 75 ont été victimes de l'usage excessif de la force par des agents étatiques, alors que 68 ont été blessés par des auteurs non identifiés. Le rapport parle aussi de harcèlement, arrestation et détention arbitraire des journalistes congolais internationaux, ainsi que la destruction et le pillage des sièges des 8 partis politiques. Parmi les 4 policiers tués, 3 ont été battus à mort et un brûlé vif.
Merci Billy Ivan Lutumba. Maître Georges Kapiamba, je rappelle que vous êtes avocat, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en Sigle et coordonnateur de la coalition des 33 ONG pour le respect de la Constitution CRC en Sigle. Pendant les manifestations du 19 au 20 septembre, les forces de sécurité congolaises ont fait un usage excessif de la force, dont la force létale, et les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme ont dit avoir documenté 422 victimes de violations des droits de l'homme pour aboutir à cette conclusion. Maître, cet échantillon vous paraît crédible? 422 personnes sur une population estimée à plusieurs milliers de personnes présentes ces jours-là à la marche, est-ce que cela vous paraît crédible, cet échantillon de 422 victimes?
Oui, monsieur le journaliste, c'est un bilan qui nous paraît vraiment crédible parce que n'oubliez pas que les organisations de droits de l'homme nationales auxquelles moi-même j'appartiens avaient organisé aussi leur propre monitoring et avaient relevé presque les mêmes chiffres parce qu'au niveau, par exemple, de la cage, on a eu à relever sur base de plusieurs témoignages éléments indiscutables, un chiffre qui est un peu plus supérieur à celui indiqué par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, nous étions arrivés à 56 personnes. Et en ce qui concerne les personnes arrêtées, vous savez que nous avons travaillé avec beaucoup d'organisations dans la défense de plusieurs personnes qui étaient arrêtées. Nous étions effectivement arrivés à un chiffre encore plus élevé parce que si nous prenons seulement ceux qui ont été poursuivis en flagrance devant les tribunaux des grandes instances de Kinshasa Gombe, Tripé, de Matete et de Kinshasa Gombe, notre organisation, à travers son service d'assistance judiciaire, nous étions arrivés à plus ou moins 480 personnes qui étaient déférées suivant la procédure de flagrance que nous avons eu à condamner à plusieurs reprises parce que nous considérons que les juridictions de droit écrit de notre pays ne peuvent pas siéger comme des juridictions d'exception ou employer des procédures de juridiction d'exception parce que cela est formellement interdit par la Constitution à son article 149. Donc, nous avons aussi retenu les mêmes plaintes que nous avons eues à exprimer à son temps avec tous nos enquêteurs, que des restrictions délibérées avaient été faites au travail de défenseurs des droits de l'homme qui étaient déployés sur le terrain pour pouvoir documenter toutes les violations graves des droits de l'homme commises en marge de manifestations du 19 et 20 septembre. On a empêché à nos moniteurs comme à ceux des autres organisations partenaires d'accéder dans des morgues, d'accéder dans des hôpitaux où différentes victimes se trouvaient. Donc nous regrettons et nous déplorons cet état des choses parce que le gouvernement congolais qui est partie prenante à plusieurs instruments juridiques internationaux qui protègent la vie notamment des citoyens à travers la ratification par la RDC des 10 instruments ne pouvait pas adopter une pareille attitude, du moins encore laisser que ses employés, ses agents puissent se comporter de la sorte sans pour autant prendre une action rapide pour y mettre fin. Donc, nous sommes aujourd'hui à un stade où il faut absolument faire pousser la dynamique vers une commission d'enquête nationale indépendante au sein de laquelle nous exigeons qu'il y ait la présence des membres du bureau conjoint, aussi des organisations de défense des droits de l'homme qui ont travaillé, éventuellement des représentants des citoyens des quartiers qui ont été les plus endeuillés par les attaques, les tirs sur des citoyens qui manifestaient pacifiquement.
Maître Kapiamba, ces rapports font état des 53 personnes tuées sur deux jours, 143 blessés, plus de 299 personnes arrêtées illégalement. Pourtant, dans son livre blanc, le gouvernement avait recensé 32 morts et tous imputables aux manifestants, car selon le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, la police n'était munie que d'armes non létales.
Alors, nous pensons qu'au vu de cette position du gouvernement qui s'est répétée, parce que c'est pas la première fois que nous l'avons entendu, nous pensons que la meilleure posture, la plus responsable, qui peut donner du crédit à cette déclaration, ne peut résulter que d'une enquête indépendante et crédible. Le gouvernement congolais sait très bien que lorsqu'il y a des allégations de violations graves des droits de l'homme, les droits internationaux, les instruments juridiques que la RDC a ratifiés interdit à ce qu'on puisse confier l'enquête sur ce genre d'allégations aux personnes ou responsables des services qui sont directement mis en cause. Donc, nous disons que le ministre de l'Intérieur a sûrement obtenu les éléments qu'il a plusieurs fois présentés à la presse. Il les a eus auprès des services qui sont directement mis en cause et que pareilles conclusions ne peuvent pas être crédibles parce que résultat du travail réalisés par ceux qui sont déjà mis en cause, qui se comportent à la fois comme juges et parties. Voilà pourquoi nous insistons pour lui rappeler que il doit adopter une attitude qui permettra à la RDC de se mettre en harmonie avec ses obligations internationales, en acceptant soit de mettre sur pied une commission d'enquête nationale indépendante, au sein de laquelle nous devions participer, ainsi que les représentants de la Monusco, ou à tout le moins accepter l'enquête internationale déjà proposée par le Haut Commissariat.
Oui, maître, le rapport documente également des cas de violences par des manifestants. Parmi les 4 policiers tués, 3 ont été battus à mort et 1 brûlé vif. Et donc, les rapports ne dédouanent pas les manifestants, maître.
Non, pas du tout. Ce n'est pas ça ce que nous disons. Nous sommes là au niveau du respect d'abord d'un principe fondamental, monsieur le journaliste. Nous ne sommes pas en train de juger ou d'établir déjà les responsabilités. Nous disons, voilà, il y a eu des événements extrêmement graves qui, de par leur ampleur, revêtent le caractère des crimes internationaux.
Merci.
Et en matière de crimes internationaux, les instruments juridiques internationaux prescrivent à ce que le gouvernement concerné, intéressé, puisse mettre sur pied une enquête indépendante, crédible, afin d'établir de manière plus exhaustive les responsabilités.
Merci,
donc, dans plusieurs interventions que nous avions faites juste après ces événements horribles, nous avons eu à condamner toutes sortes de violences d'où qu'elles viennent. Nous avons condamné les attaques dirigées contre les biens publics ainsi que les biens privés parce que on ne peut pas justifier l'exercice d'une liberté publique en s'en prenant au bien public ou bien privé, mais aussi nous disons que la réaction de représentants de l'État doit être proportionnelle.
Merci, je vais vous redonner la parole, maître Benoît Yulama, conseiller du vice-premier ministre chargé de l'intérieur et sécurité. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et comment vous réagissez à ces rapports des Nations Unies?
Bon, d'abord, ma réaction doit commencer certainement à partir de ce que maître Kapiamba est en train d'avancer comme allégation. Le vice-premier ministre en charge de l'intérêt et sécurité n'est pas jugé parti. La personne qui est mieux placée pour pouvoir expliquer les déroulements de la situation sécuritaire à travers le pays, c'est le vice-premier ministre en charge de l'intérêt et sécurité. Donc, il est la bouche autorisée qui doit informer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, de ce qui s'est passé sur le sol congolais, principalement dans la capitale congolaise. C'est bien qu'il ait condamné certains actes de violence que nous avons déplorés ici et là, mais je ne crois pas qu'à ce stade nous avons besoin d'une enquête qui proviendrait, je ne sais pas de quelle structure nationale ou internationale, puisque la seule crédibilité qu'on peut s'imaginer, c'est que seul le ministère de l'Intérieur qui donne les chiffres. Alors, on parle de la mise en cause des services de sécurité, mais cela m'étonnerait, puisque comment on peut mettre en cause des services de sécurité qui ont été dans une situation pratiquement inconfortable, qui ont vu leur tué et brûlé comme vous l'aviez annoncé. Alors, et tout de suite, puisqu'il faut justifier ces morts-là, on commence à accuser les services de sécurité, mais on oublie que les différents rapports ont oublié un certain nombre de choses. Même le rapport publié par le ministère de l'Intérieur et Sécurité, c'est un rapport qui a donné des faits patents qu'on ne peut pas discuter, mais on n'a pas fermé ce rapport. On a dit qu'il y aurait d'autres choses qui vont certainement se faire dans les jours à venir, surtout en ce qui concerne les investigations, et que seul l'organe de la loi, seul le ministère public était compétent pour ces gens de soi à identifier certainement les responsabilités. Alors, mais si le co-débatteur voudrait se substituer au juge qui en a la compétence pour commencer à juger les partis, les auteurs des condamnés, alors à ce niveau-là, ça faut se loger. Nous pensons qu'il y a un lien que nous puissions regarder. J'ai entendu des rapports qui a été fait par l'opposition, un autre rapport établi par le service des Nations Unies sur le sol congolais, qui sont sur le sol congolais. Mais le rapport qui fait foi, le rapport qui vient des services qui ont été sur le terrain, qui a une documentation suffisante, c'est le rapport du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est le seul qui peut faire foi que le rapport qui sont établis par rapport à certaines images qui sont sur Internet et qu'on a récupérées pour montrer qu'on a créé des débats sur telle ou telle personne. Ça, je crois que l'État a l'obligation de sécuriser tout le monde. C'est ce que la police a fait et elle a été très professionnelle.
Monsieur Vinon Ulama, selon ces rapports des Nations Unies, parmi les 53 personnes tuées, au moins 48 ont été tuées par des agents de l'État, dont des agents de la police nationale congolaise et des militaires de la garde républicaine et les FARDC. Et donc, selon ces rapports, la violence est plutôt le fait du pouvoir.
Non, c'est un rapport que je ne partage pas, c'est un rapport presque à géométrie variable. Lorsqu'il s'agit du pouvoir central, il faut certainement accuser le pouvoir central pour justifier peut-être la présence des agents des droits de l'homme et de la MONUSCO à Kinshasa ou des Nations Unies. Et je vous rappelle par exemple, je n'ai pas entendu dans ce rapport, je n'ai pas vu un seul extrait qui fait allusion à la jeune fille de 8 ans qui a été violée à Matete. Et cette jeune fille de 8 ans, après avoir été violée, elle a été brûlée. Elle est partie à l'école. Elle n'appartient pas à la majorité, elle n'appartient probablement pas à l'opposition. Probablement, c'est une citoyenne, c'est une Congolaise. Le rapport des Nations Unies n'a pas fait état à cette histoire qui est extrêmement grave. Et à ce niveau-là, je ne sais pas comment je peux faire crédit au rapport des Nations Unies.
Est-ce que vous avez parcouru tous les rapports de la police?
Je ne suis pas obligé de tout parcourir. Vous avez fait une très bonne synthèse de ce rapport des Nations Unies. Moi, ce que je constate, c'est que le rapport a oublié certains éléments très importants qui auraient même donné du crédit à ce rapport. C'est par exemple la mort de cette jeune fille de 8 ans qui partait à l'école, qui n'appartient pas. Probablement son père n'est pas un politique comme nous le sommes. Sa maman peut-être ne l'est pas aussi, mais curieusement, sa jeune fille a été tuée simplement puisqu'elle allait à l'école, alors que les enfants des autres sont en Belgique, en France, au Canada, un peu partout à travers le monde, sauf en RDC.
Le rapport indique qu'une large majorité des victimes, 33 d'entre elles, ont été tuées par balle. Beaucoup ont été touchées par balle à la tête, la poitrine et au dos, Monsieur Ulama. Pourquoi avoir ciblé ces zones sensibles?
Mais qui les a ciblées? Qui les a ciblées et à quel moment? Et c'est là même que nous mettons en cause le rapport des Nations Unies. Parce qu'il faut aller dans les hôpitaux pour voir les corps. Il faut passer, par exemple, des policiers arriver là où on les a brûlés. Vous regardez les dégâts. Et lorsque vous arrivez à relativiser le fait sur terrain, c'est à ce niveau-là qu'on peut, ne plus que dans l'absurde, considérer que ce rapport fait foi. Mais lorsqu'on avance des allégations, c'est toujours. Et vous trouverez la plupart des phrases sont au conditionnel. On n'arrive pas à établir qu'à telle place, il y a eu, nous avons filmé un tel monsieur. Et c'est tous les jours que nous voyons le véhicule des Nations Unies en train de secourir la Kinshasa. Est-ce qu'ils ont participé, les agents ont participé à la marche de l'opposition, à moins qu'on m'affirme qu'ils ont participé à la marche de l'opposition? À ce moment-là, nous pouvons faire foi à ce rapport. Mais le rapport n'indique absolument rien. Et dire qu'on a tiré de contenir les personnes, je mets du mal à vous répondre. Puisque je n'ai pas, j'étais en tout cas quelque part, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais les cas que l'État congolais reconnaît, c'est des gens qui ont été dans les boutiques. Des gens, les gens qui brûlaient les stations d'essence et qui prennent les armes. Mais on n'arrive même pas à dire des civils qui avaient des armes, qui tiraient sur la police, qui tiraient sur la population. Pourquoi, en fait de compte, on vient imputer cela au gouvernement congolais? Les gens qui avaient des armes là, quelle mission avaient-ils? Ce n'est pas de tuer, et quand ils ont tué, c'est pour dire quoi? Nous n'avons pas des armes, c'est la majorité, donc le pouvoir qui a les armes. Non, cela n'est pas acceptable.
Donc, selon vous, M.
le rapport est très bien à ce niveau-là.
Benoît Lama, selon vous, ces rapports ne contiennent aucune part de vérité?
Moi, je ne sais pas s'il faut faire confiance à ces rapports, étant donné que lorsqu'il a été élaboré, on a associé personne du gouvernement congolais. Le ministère de l'Intérieur a des experts. Le vice-premier ministre a produit un document qui s'appelait les livres blancs. Ce document n'a jamais probablement été consulté. Il y aura au moins, si nous pouvions accepter, qu'il y ait certains éléments de la police, certains éléments du ministère de l'Intérieur et même des FARDC. Mais tout de suite, c'est un peu de l'absurde. On dit oui, il faut faire une déduction puisqu'on a vu des gens en train de piller, puisqu'on a vu la tenue FARDC, puisqu'on a vu la tenue de la police, puisqu'on a vu la tenue de la garde républicaine. Donc, on a tué. Mais les images qui pourraient donc figurer dans ce rapport, mais on peut les ramasser sur Internet comme certains l'ont fait autrefois. Moi, je crois que ce rapport qui n'a aucun crédit, et c'est un caractère tendancier que nous avons trouvé dans ce rapport.
Merci, professeur Bob Bokabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Comment vous analysez les révélations contenues dans ces rapports des Nations Unies? Allô, professeur Bob Kabamba?
D'abord, vous avez présenté le point de vue de la forme, ensuite sur le plan du fond. Sur le plan de la forme, on peut dire que c'est une procédure tout à fait normale de la part de l'ONU de pouvoir établir ce genre de rapport. Et ce genre de rapport, ils le font dans le cadre de la mission qui leur a été dévolue de par les différents textes et traités internationaux. Et du fait que la MONUSCO est présente, donc il va de soi que s'il y a des événements, comme chaque fois, ils doivent essayer de le documenter de la meilleure façon qu'il soit et de la manière la plus objective qu'il soit. Alors, sur le plan du fond, on nous dit que si le rapport est arrivé d'un rapport préliminaire, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le rapport final, et c'est pour ça que ce rapport contient beaucoup de conditionnels et contient aussi beaucoup d'à-propos par rapport à toute une série de choses qui sont affirmées ou insinuées dans ce rapport. Donc il y a manifestement, parce qu'il est confirmé par sa réponse, le tir basé, que la plupart des victimes ont été le fait d'autorités étatiques. Et qu'est-ce qu'ils attendent par autorité étatique? Ils attendent notamment la police, l'armée et la garde républicaine. Et c'est comme si le bureau du conjoint des Nations Unies essaye dans un premier temps d'essayer déjà de commencer à documenter toute une série de faits et de violations qui ont été constatées sur le terrain. Et cette accumulation de faits ainsi que des différentes violations, dans un sens, pourrait servir prochainement, soit dans la prise de décisions, notamment liées aux sanctions, soit aussi, elles peuvent déjà constituer ce qu'on pourrait appeler une base par rapport aux enquêtes qui pourraient avoir lieu dans le cadre de la Cour pénale internationale. Et c'est ce genre de rapport, effectivement, que l'on tient généralement compte en essayant de récolter le plus possible des éléments qui contiennent donc ce. Tout par ici, il faut bien se rendre compte qu'au-delà de ce rapport, je pense que le gouvernement congolais a essayé lui aussi de faire un rapport qui pourrait normalement être en balotage, pas en balotage, mais qui peut être issu aussi en mettant en parallèle certains faits qui sont révélés dans ce rapport et essayer de le faire.
Professeur, est-ce qu'il y a moyen de vous déplacer, de bouger un peu ou de sortir si vous êtes dans une maison parce que votre ligne s'est détériorée?
Moi, je vous entends très bien.
Oui. Professeur, ces rapports font état de... Ces rapports, professeur Bokabamba, est-ce que vous me suivez?
Oui, je vous suis. Je vous suis.
Ces rapports font état de 53 personnes tuées sur 2 jours et affirment même que ces chiffres ne reflètent pas l'ampleur réelle des violations. Cela serait dû à quoi? Il y aurait des indices qui feraient croire qu'il y a eu plus que ce qui est dit dans ces rapports?
Oui, tout à fait, c'est ce que le rapport dit, et d'autant plus qu'il le dit même qu'il s'agit d'un rapport préliminaire. Et à chaque fois, ils disent qu'ils vont continuer, bien sûr, les investigations, et ils imputent la faute de ce rapport préliminaire, en fait, qu'ils ne sont pas encore arrivés à avoir le bilan définitif, ils imputent la faute donc, au gouvernement congolais, en disant que le gouvernement congolais a empêché les enquêteurs de la MONUSCO d'avoir accès aux hôpitaux, d'avoir accès aux camps militaires, ainsi qu'aux camps de détention, là où se trouvent la plupart des gens qui ont été arrêtés.
53 morts, c'est le bilan contenu dans ces rapports, bilan qui peut évoluer à l'issue des enquêtes en cours, tandis que le livre blanc du gouvernement avance les chiffres des 32 morts. Professeur, comment peut-on résoudre cette guéguerre des chiffres?
Les guéguerres de chiffres ne peuvent être résolues que lorsqu'on parle même dans les recommandations, même de la MONUSCO elle-même, elle parle dans le rapport qu'il puisse y avoir une enquête indépendante pour arriver à déterminer de manière claire tout ce qui s'est passé. Un exemple qui pourrait bien illustrer mes propos, Vous verrez que dans les conclusions qui sont contenues dans le rapport, il est essentiellement mis à l'encontre donc du gouvernement congolais, et très peu a été mis, par exemple, sur ce qui concerne le fait qu'il y a eu des policiers qui ont été molestés, brûlés vifs, etc. Donc on ne sait pas, dans le rapport, ils disent qu'ils ne connaissent pas les manifestants. Mais alors pour tout ce qui concerne les actions commises par le gouvernement, là on arrive à avoir des éléments précis, Et lorsqu'il s'agit de parler des manifestants, chaque fois dans le rapport, on semble simplement dire que ce sont des manifestants non autrement identifiés ou des manifestants dont on n'a pas plus d'éléments. Alors que là, par rapport à l'État congolais, il va de soi que lorsque l'on tue des agents de l'ordre, à part des manifestants, et que lorsque l'on fait une enquête, de mon point de vue, le livre peut être beaucoup plus détaillé, par exemple, en disant, oui, c'est à tel endroit qu'on a tué tel manifestant, et quels sont les manifestants qui ont été à ce moment-là, au moment où on a tué ce policier. Là, dans le rapport, par exemple, on n'est pas assez précis sur ces différents éléments. Par exemple, aussi, un autre élément qui est assez troublant, c'est le fait qu'on ne parle pas beaucoup, par exemple, de tout ce qui est brûlé, les sièges de certains partis politiques, mais on informe beaucoup au niveau de la des forces de l'ordre. Et c'est pour ça que je pense qu'une enquête indépendante peut arriver, de mon point de vue, à essayer de mettre de l'ordre entre, d'une part, les éléments qui sont retenus dans ce préliminaire de rapport, et d'autre part, dans le livre blanc qui a été publié par le gouvernement congolais.
Professeur Bokabamba, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lodja.
Athanas Kalambafis, depuis Sankuru, bar Lodja. Les effets des manifestations 19 et 20 septembre dernier ont une responsabilité partagée. Les auteurs des manifestations d'une part et ceux qui ont empêché d'autre part. Mais au moins ceux qui ont empêché ont une plus grande responsabilité parce qu'au lieu de protéger et encadrer, ils ont recouru aux émeutes, l'âge de lacrymogène et consorts. Ce qui a été à la base de multiples perturbations et pertes en vie humaine. Le rapport est normal parce que les manifestants n'avaient pas d'armes et pourtant on avait enregistré beaucoup de cas de mort à balles réelles.
Professeur Bokabamba, comment vous réagissez à cette réflexion?
À une certaine lecture hein, qui, de mon point de vue, est assez sensée. De ce point de vue-là, il y a eu, même le rapport le dit même de manière à la marge, qu'il y a eu des exactions, mais il va de soi que les exactions commises par, du côté, par ce que le rapport dit, les autorités étatiques, les formes sont beaucoup plus graves, puisqu'il est de la responsabilité donc, de l'État de pouvoir protéger aussi bien les biens que les populations, même s'il y a des manifestations, même s'il y a des cas de la violence, il lui incombe à l'État de pouvoir mettre fin à ces violences. Et de ce point de vue-là, moi je partage de l'avis de l'auditeur, et qui dit effectivement que la responsabilité première de l'État congolais par rapport aux événements, qui n'a pas su ou pu protéger les 53 victimes qui sont dans ce rapport ici, plus les 422 victimes qui ont été victimes de violations des droits de l'homme par ce qu'ils appellent des agents étatiques. Et d'autre part aussi, je pense qu'il y a aussi un élément que l'auditeur souligne qui concerne la responsabilité aussi des manifestants par des manières par rapport à la violence qui a été constatée, notamment brûler les sièges, notamment tuer les policiers qui, en droit congolais, qui sont des victimes assez graves. Et donc voilà, mais la responsabilité, je pense, incombe dans un premier temps à l'État congolais.
Maître Georges Kapiamba, il y a une réflexion qui vous est adressée, elle vient de Didi Lolo.
Jacques Kapeng, depuis Didi Lolo, dans la province du Lualaba. Je crois que les différentes entités amies à la RDC ont tout intérêt à continuer à la paix, plutôt qu'à affirmer les tensions inutiles à travers des déclarations qui parfois n'apportent aucune dividende au peuple congolais. J'estime, à mon avis, que le rapport du Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ne présente aucune crédibilité dans la mesure où il n'a pas tenu compte de la chronologie des faits pouvant ainsi permettre à ce bureau d'établir les responsabilités des uns et des autres de manière impartiale. Que ces organismes cessent donc de présenter toujours une image négative de la RDC.
Oui, Maître, cet auditeur rejoint M. Benoît Ayoulamba, ouais, qui estime que ces rapports n'est pas crédible.
Non. Bon, je crois que notre compatriote n'est pas suffisamment informé. Il s'agit là d'un rapport portant sur les violations graves de droits de l'homme. Il ne faudrait pas qu'il y ait aussi une confusion que j'entends qu'on voudrait entretenir entre les violations graves de droits de l'homme, les infractions ou les crimes de droit commun. Il faut qu'on rappelle, contrairement à ce que j'ai cru entendre du conseiller, qui a voulu me faire les reproches pour dire que je m'étais érigé en juge, alors que lui, c'est le rôle pratiquement qu'il est en train de jouer, en rejetant des revers de la main un rapport, un travail réalisé par les experts du Bureau conjoint de Nations Unies aux droits de l'homme, sans aucune réserve. C'est extrêmement grave. Il dit seulement accorder du crédit à son seul rapport qui est venu de son ministère. Il fait du bon job, c'est tout à fait normal parce qu'il est employé du ministère de l'Intérieur, mais je suis content de constater que l'un de vos auditeurs a mentionné le fait que tout est parti, ou l'origine de ces violations se situerait dans le fait que c'est le gouvernement qui a pris une décision assez grave d'annuler une manifestation déjà sans pour autant prendre des précautions d'usage pour faire participer les organisateurs ou leur faire parvenir les messages. Il s'est mis seulement à faire disperser violemment une manifestation totalement pacifique sans tenir compte de toutes les conséquences. En tout état de cause, nous ne sommes pas là, nous ne nous érigeons pas à juge, nous n'en avons pas la prétention, mais nous disons qu'en matière de violations graves des droits de l'homme, la République démocratique du Congo a pris des obligations dans le cadre des Nations Unies de pouvoir mener une enquête indépendante et crédible et exhaustive, ou s'il ne sait pas de faire, accepter celle qui peut provenir de la communauté internationale. Et dans le cas d'espèce, nous répétons et nous le disons que le ministère de l'Intérieur est en réalité jugé parti parce que c'est lui qui a dirigé les services ou les opérations dites de rétablissement de l'ordre. C'est lui qui a donné les différentes instructions pour faire annuler les manifestations. Et dès lors, il ne peut que chercher à se faire dédouaner en trouvant des arguments là où il pense les faire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous disons, pour que sa position, la position du gouvernement, soit prise avec crédibilité, sérieux, il faut que le gouvernement accepte une enquête indépendante, parce qu'il s'agit d'ailleurs d'une obligation. Une obligation de la RDC. La RDC n'est pas un pays qui est situé ailleurs, en dehors de la communauté internationale. Si eux ne veulent pas faire cette enquête, la communauté internationale peut arriver à les contraindre par tous les moyens. Donc, nous pensons que nous sommes encore à une phase où il faut absolument privilégier une discussion, et là, nous continuons à faire notre travail de sensibilisation, de plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il accepte la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante. Merci. Au sein de laquelle les membres du bureau conjoint devront faire partie, ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme.
Merci,
que nous sommes.
Tema.
Nous pourrons travailler ensemble et dégager des conclusions qui pourront soit dédouaner ceux qui sont pointés aujourd'hui comme étant la base de ces violations graves des droits de l'homme, ou en trouver les différentes responsabilités à charge.
Merci, Maître Georges. Merci, Maître Georges. Benoît Ayoulamba, vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Kabinda.
Tout le monde a l'obligation de respecter la vie humaine. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, réclamant la démocratie et le respect des engagements par nos prix. Le peuple congolais est massacré en désordre. La police, les FARDC et la garde républicaine sont responsables moraux et auteurs directs parce qu'ils ont des chefs politiques d'une part. Et d'autre part, ils sont également responsables directs, auteurs directs, étant exécutants. Parce qu'en fait, la journée des 19 et 20 septembre, la police, les FARDC et la garde républicaine n'ont pas assuré leur mission de sécuriser, garder et protéger la population, mais plutôt massacrer ces peuples longtemps marginalisés. Au lieu d'être en jade de l'ordre, elles se font en jade de désordre.
Je crois que je ne saurais pas être très dur envers les compatriotes de Kabinda, puisque apparemment il n'a pas suivi le déroulement des événements dans la ville province de Kinshasa. Et de deux, il connaît très bien, et peut-être comme tous les autres citoyens congolais, que la vie humaine est sacrée. Nous sommes des chrétiens, nous avons le respect envers nos compatriotes, mais il oublie de condamner ceux qui ont tué des policiers. Si la police se réagissait, on allait dire que le moyen de la police était supérieur au moyen de ceux qui manifestaient. Et d'ailleurs, la manifestation était autorisée et avait un itinéraire qu'il fallait certainement suivre. Ce qu'on a trouvé à Matete en train de saccager des stations d'essence, des banques, n'étaient pas en train de marcher. Ce sont des gens qui étaient en train de voler. Et vous ne pouvez pas les appeler des manifestants. Et quand même, l'auditeur continue un peu le pour dire que la responsabilité n'incombe qu'à l'État. Alors là aussi, c'est un peu tendancieux. Puisque quand vous regardez, par exemple, dans les livres blancs que le ministère de l'Intérieur a rendu public, vous constaterez qu'il y a des armes A4, au moins 3 armes qui ont été abandonnées par les manifestants. On vous identifie les noms des personnes qui sont tombées, leur numéro de téléphone et même leur adresse. Ce que vous ne trouverez pas dans les rapports de Nations Unies. Il y a une différence très grande.
Donc vous voulez dire que les manifestants, certains manifestants étaient armés?
Je vous l'affirme, et je vous confirme, je les rapporte pas devant moi, je peux vous identifier, et même leur numéro de téléphone. Et certains ont été arrêtés, et d'autres ont fini par avouer qu'ils avaient des armes, qu'on les avait préparées. Mais quand on parle de la manifestation pacifique...
Qui les avait préparées?
Mais écoutez, alors, celui qui a appelé à la marche, il connaît pourquoi il a appelé à la marche. Mais est-ce qu'il y a une marche? Il n'y a pas une marche. On a commencé à pied, on est parti au siège du PPRD, je ne sais pas si c'est là où il y avait l'organisation des élections, on est parti au siège du Congrès national congolais, je ne sais pas si c'est là où il y a l'organisation des élections, ils sont partis au parquet général, puisqu'un certain individu, un certain monsieur était arrêté au parquet général qui regroupait un certain nombre de gens au niveau de l'unité, on attaque le parquet général. Vous savez, lui, l'avocat qui vous parle, comment on peut arriver à produire un jugement? Et il faut avoir d'abord l'intelligence, avoir fait 5 ans d'université. Et quand on est juge, c'est un travail scientifique qu'on fait. Et je ne crois pas que lui qui est avocat,
le fait que les sièges des partis de l'opposition ont été aussi détruits, n'est-ce pas? MLP, notamment l'UDPS.
Moi, j'étais dans l'histoire alliée. Je peux vous avouer qu'il y a l'auto-victimisation. Ça arrive souvent. Quelqu'un qui connaît qu'il est dans le mauvais, il se prépare et il dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour que je puisse me justifier. Que ce soit...
Mais les faits sont là, les sièges de ces partis de l'opposition ont été brûlés nuitamment.
Mais alors...
Il y a eu même des morts.
Non, écoutez, les morts ont pu le ramasser quelque part. Et on vient jeter, nous connaissons comment ça se passe dans notre pays. Notre problème, c'est que nous avons l'obligation de sécuriser tout le monde. Mais qui pouvait arriver dans ce coin-là, puisque l'unité presque était quadrillée? Qui pouvait arriver? De la majorité, qui pouvait arriver à la 10e rue? Qui pouvait arriver sur l'avenue de Redoc et de l'enseignement? Personne. Alors, je crois que ce sont des montages que nous avons connus par le passé.
La nuit.
Ce sont des montages. Personne ne pouvait arriver à ce siège-là. Ils étaient très bien armés.
Monsieur Benoît, évidemment, le numéro 1 de la MONUSCO, le chef de la MONUSCO, Monsieur Mamadou Sidikou, exhorte les autorités congolaises à pouvoir rapidement, n'est-ce pas, mener des enquêtes indépendantes. Vous avez suivi le professeur Bob Kabamba et Maître Kapiamba, qui ont aussi estimé qu'il faut nécessairement mener des enquêtes indépendantes. Mais apparemment, vous n'êtes pas d'accord par rapport à cette idée.
Bon, moi, je crois qu'avant que la MONUSCO ne demande une enquête indépendante, elle devait d'abord se référer au travail qui a été fait par l'État congolais. Il y a des policiers qui ont été reprochés de certaines choses, qui ont été arrêtés et traduits devant la justice. Je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu les spécialistes des Nations Unies aller assister aux audiences. Il y a des gens qui ont reconnu qu'ils ont été drogués, qu'on leur a donné des armes. J'aurais souhaité que ceux qui sont en train d'enquêter aujourd'hui pour le compte de ce rapport préliminaire descendent au niveau des cours des tribunaux. Ils sont là, ils sont libres. Et la MONUSCO arrive régulièrement à Makala, arrive régulièrement à Dolo, qu'ils aient vérifié. Alors, quelle autre enquête qu'on chercherait, puisqu'on n'a pas trouvé satisfaction en termes de statistiques, et que le gouvernement en a parlé des 32, mais alors l'opposition est partie très loin. Alors, si vous faites la moyenne entre ce que l'opposition a donné et ce que le gouvernement a donné, le rapport des Nations Unies,
déclare autre chose. Donc il n'y a pas de vérité.
Comment vous réagissez au vu de toutes ces informations qui sont données et par les gouvernements et par les rapports des Nations Unies, et comment vous réagissez à ces dossiers judiciaires ouverts par les procureurs généraux de la République, dont la liste, n'est-ce pas, qui a été publiée à travers ces dossiers, la liste ne contient que les noms des membres de l'opposition.
Non, et moi je ne crois pas qu'il faut que nous fassions une déduction. Le procureur de la République a l'obligation de faire son travail en tant qu'organe de la loi, en tant que branche séculaire de pouvoir public. Et donc ce que l'organe de la loi fait est conforme à la loi. C'est celui qui se sent lésé, qui se présente devant l'organe de la loi. Et pour le cas présent ici, c'est que et au niveau de la police, je vous dis qu'il y a des gens qui ont été déjà condamnés. À moins qu'on nous forme, on nous présente les allégations de l'opposition, certains sont partis déposer des plaintes. Merci. Mais des plaintes pratiquement vides. Merci. L'organe de la loi peut se saisir, mais il faudrait que chacun, celui qui allègue, amène la preuve. Et la responsabilité de la preuve appartient à l'accusation.
Merci, professeur Boukamba. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme recommandation, n'est-ce pas, aux uns et aux autres pour que les manifestations ne puissent plus dégénérer en violence en RDC?
Oui, là, d'abord, il faut quand même dire une chose, hein, que pour une fois, le gouvernement congolais a fait des efforts, a essayé déjà de publier déjà lui-même son propre rapport par rapport aux événements, parce que ce n'est pas souvent que l'on a des rapports qui sont produits par le gouvernement et dans lesquels on trouve quand même qu'il y a eu des choses qui ne vont pas. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, je pense qu'il y a toute la question qui se pose au niveau de la conforme de ce qui est manifesté. Le droit de manifester, je pense que c'est inscrit dans la Constitution. Et que lorsque on a remarqué, par exemple, lorsqu'il y a eu le retour de Tshisekedi à Kinshasa, je pense que les événements sont passés sans problème. Parce qu'on a eu le meeting de l'opposition à Kinshasa, là aussi, ça s'est passé sans problème. Moi, j'ai l'impression que ça donne, c'est que lorsque la police, de mon point de vue, lorsque la police essaye d'encadrer les manifestations comme la loi le périmètre, on a moins que des actions. Et par contre, lorsque l'on fait intervenir l'armée et les cadres républicaines, ils n'ont pas la même formation que la police, on a l'impression qu'il y a toujours, des durations que l'on constate. Et d'ailleurs, dans le rapport même de la Nations Unies, il semble mettre à vérifier les choses, en fait, une part la police nationale, l'ANR, l'RDC, ainsi que la garde républicaine. De mon point de vue, il faudrait quand même professionnaliser beaucoup plus la police, responsabiliser beaucoup plus la police dans les encadrements et les manifestations, et je pense que c'est de façon-là qu'on va arriver à avoir moins d'exactions et moins de troubles et de morts comme on en a connu lors des événements du 19 et du 20 septembre. Et les autres événements sont bien passés, il n'y a pas eu de morts. Et tout le monde a félicité la police. Je pense que même la MONUSCO et la communauté internationale ont loué le fait que toutes les manifestations sont passées par heure, mais il a fallu qu'il puisse y avoir ces manifestations du 19 à 20 pour ternir un peu l'image du bien que la police avait déjà eu lors de précédentes manifestations.
Oui, professeur Bob Kabamba, un mot en guise de conclusion.
Un mot en guise de conclusion, je pense que les organisations des droits de l'homme doivent être de plus en plus vigilantes et doivent, de mon point de vue, continuer leur travail sur le terrain pour essayer chaque fois de réunir les différentes positions et les différentes dégradations qui sont constatées. Et de ce fait, aussi du côté du gouvernement congolais, lorsqu'il y a des dégradations qui sont commises, il s'agirait quand même de pouvoir appréhender les auteurs de ces différentes violations et de pouvoir les traduire en justice. Cela pourrait amener à ce que la population puisse à nouveau avoir confiance en ces forces de sécurité et avec les événements d'équipe.
Merci, professeur Bob Kabamba. Maître Georges Kapiamba, votre conclusion.
Oui, ma conclusion est si simple. Je constate seulement que le gouvernement ne voudrait pas qu'il y ait une enquête indépendante. Nous continuons à dire que ces conclusions ne répondent pas aux critères du droit international. Et que la soi-disant enquête qui est vantée tout le temps n'est que la poursuite de la répression qui est menée contre les membres de l'opposition et de la société.
Merci, M. Kapiamba. M. Benoît Yulama, votre conclusion, en un mot.
Oui, en un mot, je crois que l'État congolais a l'obligation de sécuriser tout le monde. Et j'apprécie à juste titre la dernière partie de l'intervention du professeur qui a démontré qu'à deux reprises, la police a été plus correcte par rapport à tout ce qu'il y a eu comme reproche. Mais si l'itinéraire a été violé, les gens ont commencé à attaquer la police, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez reprocher à l'État congolais.
Merci.
Mais nous devons sécuriser tout le monde et pour l'intérêt de notre peuple.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël qui était à la technique. Merci à Alain Irung, Berry Franklin Mouchaka, sous la supervision de Julien Nyamoni, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.